Chapitre 3. Les grands vaisseaux de ligne d'autrefois, appelés de la sorte parce qu'ils combattaient en file indienne pour protéger leur proue et surtout leur poupe où se trouvaient les salons du commandant, ne pouvaient être mis en panne à la va-vite et un homme qui tombait par-dessus bord en haute mer était perdu. D'ailleurs, la première qualité requise du matelot d'alors était de ne pas savoir nager. Vu le régime en vigueur, seule la hantise de la noyade attachait contre vents et marées les équipages à leur géole. Quant au capitaine, qui était requis de sombrer pavillon haut avec les chaises percées, des talents natatoires les eussent rendus ridicules. Cette nuit du 22 au 23 octobre, on vint d'autant moins à mon secours que j'avais chu sans témoin. J'eus la chance d'échapper à l'étrave, la fraîcheur de l'eau me ranima, et quand je refis surface, je me mis à barboter comme j'avais appris à le faire dans la Séverne de mon enfance. L'eau de mer soutient mieux que l'eau douce, et ma faim menaçait d'être longue. J'aurais dû, sans doute, penser à Dieu ou à ma mère, mais j'avais perdu mon pantalon, et telle est la force d'une bonne éducation anglaise que je me désolais à l'idée de périr le derrière nu. Le froid paralysait déjà ma nuque lorsque les lumières se sont approchées. J'ai crié « à l'aide !» et des pêcheurs au long pareau m'ont recueilli et réconforté. Le patron de ma barque baragouinait l'anglais et j'appris que ces braves gens venaient d'Ithac où était leur port d'attache. Cela ne faisait guère mon affaire, île ionienne d'une certaine importance. Ithac possédait une administration britannique à demeure. Si j'allais lui rendre visite, elle me remettrait à Codrington, et si je m'en abstenais, je risquais d'être arrêté comme déserteur. Je demandai à être déposé sur l'un des nombreux îlots des Ioniennes, une terre sans police où des villageois hospitaliers pourraient m'héberger et m'aider peut-être à gagner par la suite Otrante ou Brindisi, terre italienne où mes plus graves ennuis seraient terminés. Il n'était en tout cas pas question de me faire débarquer sur le proche littoral à feu et à sang de la Grèce continentale où grecs et turcs d'Arcanie s'étripaient. Peu avant l'aube, la poursuite hasardeuse du poisson nous avait entraînés à l'écart des routes habituelles au voisinage d'une certaine Kalinaos dont le nom semblait indiquer l'antique construction d'un beau temple. Or, je me trompais de racine. Il s'agissait de belles eaux jaillissantes, promesses qui faisaient rêver dans un pays aussi sec. Les pêcheurs avaient ouï dire que Kalinaos fut habité, mais aussi que l'île avait mauvaise réputation. De grands singes y avaient dressé des molos à courir sus aux voyageurs égarés, et personne n'y abordait plus de gaieté de cœur. Cette fable ne pouvait que me garantir un séjour plus tranquille, et j'insistais pour être descendu là. On s'efforça de m'en dissuader, mais mon entêtement vint à bout de toutes les objections, et au petit jour, je fus abandonné sur le sable d'une anse déserte, avec force signe de croix à l'orthodoxe, c'est-à-dire à toute vitesse et à l'inverse du sens commun. Mes sauveurs m'avaient fait cadeau d'une couverture odorante, et je leur avais donné en remerciement tout ce que j'avais sur moi, mon maillot réglementaire de canonnier à rayures bleues et blanches, plus compromettant qu'utile, il est vrai. J'abordai de la sorte sur Kalinaos dans le plus simple appareil comme une statue grecque avant l'invention de la feuille de vigne. Au premier rayon du soleil, je montai vers l'intérieur à la recherche d'un sentier qui me conduirait à des habitations. Je ne le découvris point sans peine. À l'inverse de la plupart de ses consoeurs, au relief calcaire dénudé, Kalinaos était surtout faite de roches magmatiques imperméables, à sa végétation touffue, analogue à ce qu'on dit du maquis corse, rendait la progression difficultueuse. Parvenu à mon sentier les pieds en sang, je me mis en marche péniblement sous un chaud soleil d'automne, du côté où était perceptible un murmure d'eau courante. J'arrivai bientôt à une éclaircie, agrémentée de pins et de cyprès que traversait un ruisselet sautant de pierre en pierre. Mon premier geste fut de m'y baigner les pieds avec délices. Relevant la tête, j'aperçus à quelque distance l'orée assez vaste d'une grotte, d'où sourdaient les eaux qui venaient de me rafraîchir, et, à l'entrée de la grotte, sous une avancée du rocher, Une nymphe était debout, bien assurée sur le chapiteau d'aurique qui lui servait de piédestal. Cette situation imprévue était si charmante que je ne pouvais manquer, malgré ma situation précaire, d'en être aimé. Entre 14 et 15 ans, j'avais ressenti quelques velléités romantiques vite corrigées, et à 16 ans déjà, s'annonçait chez moi ce tempérament positif que les années devaient renforcer. J'ai traversé ce siècle le regard fixé sur les vraies beautés de la nature, qui résident dans les secrets qu'on lui arrache plus que dans les décors qu'elle nous propose. Mais un vif penchant pour les sciences ne saurait étouffer tout sentiment esthétique chez un jeune contemporain de Shelley et de Byron. L'art grec était alors plus à l'honneur que jamais, et cette nymphe paraissait ravissante. Je m'en approchai. La statue était d'une facture délicate, que l'on aurait pu attribuer à première vue au IVe siècle avant Jésus-Christ ou à la meilleure période hellénistique. Le marbre, apparemment patiné par les siècles et doré par les rayons encore obliques du soleil, avait la chaleur de la vie. Mais le bras était brisé, qui retenait la draperie voilant la nudité de la jeune fille, et je dus réprimer un mouvement pour arrêter le gaz dans sa chute, hommage qui avait de quoi flatter le sculpteur inconnu sur les champs élyséens. Une machinale curiosité me fit quelques pas à l'intérieur de la caverne, qui se limitait à une salle de bonne dimension. À cette heure de la matinée, la paroi du fond était suffisamment éclairée pour qu'on pût distinguer la fissure béante, entourée de mousse qui donnait le jour à la source, mais aussi des peintures rupestres qu'avaient laissées les primitifs habitants du pays. Il s'agissait de scènes de chasse, des hommes entièrement nus, armés d'arcs et de flèches, poursuivaient des taureaux sauvages. Les tons bruns, ocre ou noir, avaient pâli, mais le naturel, la spontanéité des mouvements d'ensemble était remarquable. Vu la naïveté des premiers âges, les sexes des taureaux et des hommes étaient plus qu'apparents. À la fin du règne de Georges IV, la préhistoire balbutiait. Boucher de Crèvecœur de Perthès n'avait pas encore fouillé les alluvions abbévilliennes, ni Marcellino de Sutwola découvert les merveilles d'Altamira. Je ne doutais pourtant point du grand intérêt de ma trouvaille, du fait même qu'étaient très rares les vestiges de ce genre jusqu'alors étudiés et répertoriés. Et les fresques étaient d'autant plus originales que les chasseurs, pour des motifs religieux sans doute, avaient été représentés avec une queue. Je me promis de revenir pour effectuer un relevé. Comme je sortais de la caverne, mes yeux éblouis par le soleil virent le dos de la nymphe à contre-jour, et je crus sur le moment à une allusion sensorielle, à une fugitive rémanence rétinienne, en relation avec les queues préhistoriques que je venais d'apprécier. Ma nymphe semblait nantie elle aussi d'un appendice postérieur. J'ai dû me rendre à l'évidence que cette queue de jeune fille était on ne peut plus réelle. Gracieusement infléchi, l'organe descendait jusqu'au muscle jumeau du mollet gauche. Avec un malaise indéfinissable, je m'enhardis à effleurer la chose du bout des doigts, vivant à l'ombre du rocher, la queue virginale était froide comme un serpent. Je retirai la main en hâte. Après de troublantes réflexions, je penchai pour une influence de la sculpture égyptienne sur la sculpture grecque. Pourtant, si l'art égyptien des pharaons ou des Ptolémées avait mélangé volontiers les formes animales et humaines, il n'avait jamais rien produit de ce genre, et d'autre part, tout le pur génie grec se fût opposé à la fabrication d'un tel monstre. Perplexe, je bus au ruisselet et poursuivis mon chemin. La solution du mystère devait être simple. Le maire du village, le pape ou le maître d'école allait sans doute me tirer d'embarras. Le soupçon ne me venait point qu'il pût exister un rapport entre les queues préhistoriques et la queue de nymphe. Le soleil était déjà haut et mes pieds me faisaient horriblement souffrir lorsque, d'un détour du sentier, je découvris enfin tout en contrebas, au fond d'une crique, un groupe de modestes maisons blanches et une humble chapelle orthodoxe le long d'un quai en mauvais état. Aucune cheminée ne fumait, aucun filet ne séchait, aucune barque n'était au mouillage. Et l'on ne remarquait d'autres signes de vie qu'une multitude de chats qui paraissaient folâtrer ou se disputer sur les toits en terrasses trouées par les orages ou sur le quai désert. Déçu et déconcerté, Je descendis jusqu'au village où je fus aussitôt cerné par les chats, dont certains, en raison peut-être d'un retour à la vie sauvage, avaient une taille inquiétante. De maison en maison, ces bêtes faméliques m'ont accompagné, crachant leur animosité à distance respectueuse, mais trop courte pour mon goût. Et de maison en maison, d'examen en examen, il s'avérait bien que les chats étaient les uniques habitants qui s'étaient reproduits de façon géométrique après la disparition des villageois, sans autre limite à leur expansion que les ressources en rats, en lézards ou en oiseaux. Là encore, comme sur la couronne, on distinguait des adaptés et des souffreteux, d'énormes matous contourés de cicatrices et des chats squelettiques qui n'avaient plus que la force de se faire couvrir. La surpopulation pousse la concurrence vitale à son comble. Portes et fenêtres de ces pauvres demeures étaient restées ouvertes, preuve manifeste qu'on était parti sans espoir de retour. Partout, la poussière et les toiles d'araignées accumulées attestaient que l'abandon remontait à de nombreuses années. Mais le départ s'était fait dans l'ordre. On avait emporté tous les objets personnels de quelque valeur, toutes les hardes, tous les meubles en état de servir, tous les engins de pêche, tout le matériel agricole, tous les outils, tous les ustensiles de cuisine. Et les places des icônes familiales étaient vides devant des reliquats de cierges. Le cheptel avait évidemment quitté les écuries ou les étables avec les immigrés, qui avaient aussi amené les chiens, à moins que les chats ne les eussent dévorés. Il se dégageait de ces lieux sans âme une atmosphère sinistre, et je me perdais en conjectures sur les motifs de ce total exode, crainte de la guerre, des pirates, d'une épidémie. Je découvris dans un galetas une paire de sandales éculées qui me furent un précieux réconfort, et je poussai jusqu'à la chapelle, sise sur une petite place où coulait une fontaine qui n'était plus qu'un abreuvoir pour chats sans maître. La porte était entrebâillée. Je constatai que le pop avait fait le vide avant de perdre le large. Sur les murs, quelques fresques détériorées subsistaient où se reconnaissait une manière byzantine. Je l'ai parcouru du regard, et tout à coup, demeuré figé de stupeur, un Saint-Georges frappé de verge, peint de profil, agenouillé nu et attaché par les poignets à un bois de supplice, était lui aussi assorti d'une queue. Il n'y avait pas à s'y tromper. Elle était bien là, dépassant d'une bonne longueur le linge qui saignait décemment la taille. À vrai dire, le bout de la queue du saint s'était effrité, mais il en restait suffisamment pour faire vaciller l'esprit. J'examinai de plus près les autres fresques, qui étaient assurément de la même main que le Saint-Georges, et donnaient l'impression d'être fort anciennes, s'il fallait en juger par les costumes des XIVe ou XVe siècles. Au fond de la chapelle, au-delà de l'emplacement de l'iconostase, une porte était ouverte sur une pièce qui avait dû servir de sacristie, de salle de classe et de catéchisme. Un tableau noir, de bois peint tout écaillé, portait encore, fixé par une punaise, une image pieuse moisie qui montrait le couronnement de la Vierge par des angelots. Et là, ma stupéfaction ne connut plus de bornes. Les angelots avaient de mignonnes petites queues. J'ai détaché l'image que j'ai longtemps tournée et retournée, palpée et scrutée comme si une explication raisonnable pouvait en jaillir. Que, mis à part, la scène était parfaitement conventionnelle, caractéristique d'une iconographie orthodoxe naïve et populaire. La matière et l'impression, tout à fait banales, la chose avait été stéréotypée au piré. Il est un degré d'étonnement qui paralyse l'esprit. L'idée insoutenable me frappa que des populations simiesques s'étaient perpétuées au Kalinaos et peut-être sur d'autres îlots reculés, depuis la nuit des temps jusqu'à une époque récente où une administration française ou britannique les avait déportées et mises sous le boisseau pour qu'elles cessent de faire scandale. Quant au couronnement de la Vierge, ne s'agissait-il pas d'une émission réduite commise par des Grecs besogneux pour flatter naguère encore les particularités anatomiques d'une clientèle originale? La fable racontée par les pêcheurs semblait corrober ses interprétations. Épuisé par les mauvais traitements subis sur la couronne et par une nuit d'émotion, tourmenté par la faim, je me sentais incapable de penser plus loin et il me fallait aviser au plus urgent. Je sortis de la chapelle et me retrouvai sur la place du village, environné en plein soleil d'une horde de chats qui me considéraient d'un œil gourmand. Il était préférable de ne pas les tenter davantage. Je bus à la fontaine, la seule chose qui parut normale en ce village, et je quittai l'endroit sans retard par l'unique route qui s'offrait à moi, une chaussée poussiéreuse et dégradée qui suivait d'assez près la côte parmi les oliviers hors d'âge et des vignes en friche. Une route mène toujours quelque part et je me raccrochais à l'espérance de trouver à déjeuner. Dans l'immédiat, les raisins dégénérés étaient déjà pourris sur les ceps et les maigres olives encore vertes. Au sortir de la petite plaine côtière qui correspondait à la courbe de la crique, la route, de plus en plus raboteuse, s'éloignait de la mer et gravissait de roides escarpements jusqu'à un plateau torride, piqueté de broussailles et d'oliviers. Il était au soleil 3 heures de l'après-midi et Londres n'aurait pas été plus chaud en plein mois d'août. La montée m'avait achevé. Je me traînais lamentablement et commençais de ressentir les effets d'une insolation. Je me laissais enfin tomber dans l'ombre parcimonieuse d'un gros olivier et m'abandonnais au découragement. Je ne tardais pas à sombrer dans un assoupissement fiévreux où le chat à 9 queues de la couronne faisait une sarabande avec des queues de l'âge de pierre, des queues de nymphes hellénistiques, des queues de saints du XIVe et des queues d'anges contemporains ou éternels. J'ai dû perdre tout à fait connaissance et des aboiements m'ont réveillé. Ouvrant les yeux, je vis soudain passer en flèche un petit renard qui détalait en zigzag entre les arbres, suivi de près par une meute de grands chiens gris. Dès qu'ils me flairèrent, ces damnés animaux, me prenant sans doute pour un énorme renard, me foncèrent dessus gueule grande ouverte. Réunissant mes dernières forces, abandonnant ma couverture et mes sandales, je n'eus que le temps de grimper à mon olivier, tandis que les chiens mettaient férocement en pièces mes affaires. Peut-être parce qu'elle sentait les pieds ou le poisson. Ces bêtes ne savaient pas ce qu'elles voulaient. Avec un soulagement inexprimable, j'entendis des exclamations et des jurons en bon anglais où tranchait une voix de femme chaude et bien timbrée. Et de mon perchoir, j'aperçus quelques cavaliers qui virent volter à la recherche de leurs chiens et de leurs renards égarés. Je poussai des appels de détresse et les cavaliers coururent à mon arbre. Il y avait là une jeune fille et 3 chasseurs. Je grelottais de fièvre sur ma branche et la tête me tournait. Il me souvient cependant fort bien d'avoir vu la jeune fille descendre de son bai et se rapprocher à grands pas nerveux. Elle portait, avec une belle aisance, une culotte de peau et des bottes de chasse à revers dont elle fustigeait la tige à coups de cravache. Cette culotte me causa une grosse surprise, car en 1827, toutes les femmes montaient en Amazone. Une audace aussi indécente devait s'expliquer par une vie insulaire et retirée. Parvenu au pied de mon olivier, au lieu de disperser ces chiens dont les yeux bleuâtres me terrorisaient, la jeune personne m'apostropha avec hargne. « Qu'est-ce qui vous prend de vous mettre tout nu sur une propriété privée pour gâcher une chasse aux renards ?» L'inconscience de la question révélait une fille de la meilleure noblesse. Je murmurai que j'avais fait naufrage, que je mourais de soif et que le soleil m'avait gravement incommodé. Malgré l'inconfort de ma position, j'avais tenté par pudeur de présenter plutôt mon derrière à la demoiselle qui abandonna la conversation pour le fixer d'abord avec une intense curiosité, puis avec un dégoût manifeste, et dédaignant de me parler davantage, elle me tourna le dos pour aller se remettre en selle. C'est alors que je crus voir dans ma fièvre que la queue de la jeune lady, gantée de daims clairs et agrémentée d'un nœud de velours noir, battait furieusement de droite et de gauche entre les pans de la redingote. C'était bien autre chose qu'une queue de Saint-Georges. J'eus un cri étranglé. Je lâchai prise et tombai, privé de sentiment au milieu des molosses. Je ne repris vraiment conscience que le lundi 29 octobre, après une semaine de fiévreux délire qui me laissait faible et dolent, mais relativement lucide. J'étais alité en chemise, dans une chambre claire, rendue plus claire encore par les meubles français en bois blond du dernier moderne, comme on en fabriquait depuis la chute de l'Empire,
mobilier qui a reçu depuis l'étiquette de restauration. À mon chevet était un homme rondouillard entre deux âges, à la tête de bon papa auréolé de cheveux blancs, qui me dit être le docteur Babington, originaire de Dublin. Sobrement habillé à l'ancienne mode, portant habit long et culotte, doué d'une voix douce et cordiale, cet Irlandais joufflu inspirait aussitôt confiance. Je me présentai moi-même, et ce Babington fut visiblement impressionné d'apprendre que j'étais étudiant en médecine et petit-fils d'Erasme Darwin, poète et physiologiste célèbre dans toute l'Angleterre cultivée pour sa zoonomia, où se dessine déjà en filigrane la thèse d'une transformation des espèces animales. J'appris que j'avais été transporté chez le maître de Kalinaos, Randolph Brian Cashel, quatrième marquis Melrose, qui avait fait restaurer au point le plus élevé de l'île une forteresse vénitienne de la fin du XVe siècle et qui serait honoré de faire ma connaissance dès que j'irai mieux. Je n'avais aucun motif de cacher l'attentat dont j'avais été victime à Tilbury, ni ce qui en avait résulté. Le récit de mes souffrances sur la couronne arracha force soupirs de compassion ou d'indignation à l'aimable Babington, mais je le sentais surtout curieux de la suite. Je parlais donc de mon accident de navigation, de mon sauvetage inespéré, de mon débarquement sur Kalinaos et des bizarres anomalies artistiques que j'y avais rencontrées en si peu de temps. Ce dernier point suscita chez mon auditeur le plus vif intérêt. Plusieurs fois, Babington me fit répéter dans le moindre détail ce que j'avais observé et ce que j'avais pu en penser. Enhardi par un écho si favorable, je me risquai à lui raconter que j'avais eu de plus une hallucination de queue dont le nœud de velours noir m'avait maintes fois visité durant mon délire. L'intérêt du docteur redoubla, et il prit même quelques notes me signalant que j'avais eu affaire à Lady Parthenope, fille unique de Sir Randolph. Mais lorsque je priais Babington de me donner son point de vue sur les anomalies artistiques qui m'avaient si fort intrigué, je me heurtai à une réserve qui m'intrigua plus encore. Et rompant les chiens, mon Irlandais se retira précipitamment après m'avoir administré un soporifique. Plusieurs jours s'écoulèrent où je demeurai alité, bénissant la providence d'avoir retrouvé un univers confortable et accueillant après d'aussi terribles épreuves. Babington s'occupait de moi en exclusivité et avec beaucoup de dévouement, veillant à la cicatrisation de mes meurtrissures et m'apportant lui-même sur un plateau des repas légers mais savoureux dont il avait étudié l'ordonnance. Et entre deux profonds sommeils, j'avais avec lui de sympathiques conversations. Je ne pus toutefois rien tirer du docteur au sujet des mystérieuses anomalies. Chaque fois que je m'y essayais, Babington se bornait à jeter sur moi un regard clinique et il finit par me dire « Dès que votre tête, éprouvée par une fièvre cérébrale, sera tout à fait rétablie, vous comprendrez, j'espère, sans mon aide. » Je n'osais plus insister. En revanche, causant à bâton rompu, Babington m'informa que Lord Melrose s'était installé à Kalinaos une dizaine d'années auparavant, après un veuvage qui l'avait très éprouvé. Autre déception, Sir Randolph, en homme épris d'idéal, s'était longtemps attaché à faire pénétrer les bienfaits de la civilisation britannique chez les métayers irlandais de ses 70 000 hectares du Roscommon et du Galloway, tâche dont la parfaite vanité lui était trop tardivement apparue. Désespérant de l'Irlande, et surtout des Irlandais, désespérant des femmes, dont aucune ne pouvait remplacer celle qu'il avait perdue, Lord Melrose était devenu misanthrope au point de se retirer du monde dans un paradis, et le Sénat des États-Unis des îles Ioniennes lui avait accordé Kalinaos sur le désir du haut-commissaire anglais. Indemnisée grassement, la maigre population s'était éclipsée sans bruit. Notre grand seigneur ne pouvait plus sentir le peuple, fut-il Hélène. Je connaissais enfin le motif de l'exode. Les pêcheurs de Kalinaos avaient subi le contre-coup de la question d'Irlande. Cette satisfaction de curiosité me donna bon espoir que le reste s'expliquerait aussi aisément. J'avais repris quelques forces et de l'appétit. Un matin de bonne heure, nous étions, je crois, le jeudi 1er novembre, Babington, après m'avoir pris le pouls, me permit de me lever pour aller plus loin que les cabinets à la turque, et me jetant une cape sur les épaules, il m'ouvrit la porte qui donnait sur la terrasse. Des fenêtres qui éclairaient ma chambre, on ne voyait que du ciel car la largeur de ladite terrasse interdisait de regarder en contrebas. Mais du parapet, la mer reprenait ses droits avec les terres que la nature y avait semées. Dans le lointain, vers le nord-ouest, on devinait les hauts reliefs de Le Sade et plus au sud, les croupes onduleuses d'Ithac qui se confondaient avec les montagnes de Céphalonie. Et si le regard s'abaissait, il découvrait une cascade de jardins à la française, descendant par paliers jusqu'à un petit havre. Pendant mon indisposition, la température avait chuté, et pour l'heure, les nuages s'amoncelaient du côté d'Ithac. Le beau temps était fini. Je serrai la cape contre moi. L'air vif me grisait, et aussi des bruits, des rumeurs qui n'étaient pas perceptibles de ma chambre close de malade. Je sentais la vie revenir dans mes veines après une parenthèse aberrante dans un destin bien réglé. Une géolette blanche à voile aurique, qui avait grossi à vue d'œil, manœuvrait pour accoster à la jetée. Babington me dit que le petit bâtiment, baptisé la Comète par Sir Randolph, était allé quérir à Corfou le capitaine Macpherson, cousin de Melrose et officier de marine. Ce personnage était depuis 4 ans attaché naval auprès du haut-commissaire et il obtenait de loin en loin une permission pour aller passer quelques jours à Kalinaos. Mais le conflit qui rendait la navigation dangereuse raréfiait ses visites. Depuis longtemps, la Comète n'allait plus guère à Corfou, capitale des îles, que pour l'indispensable, voyageant autant que possible de nuit pour plus de sûreté. Par vent favorable, la traversée durait 15 ou 16 heures. Après ma croisière à bord de la couronne, la vue d'un officier de notre marine de guerre n'était pas pour hâter ma convalescence, et de mon observatoire, je suivis l'accostage sans enthousiasme. Mon attention était plutôt sollicitée par la tache claire et pimpante que faisaient sur la jetée la robe et le chapeau de paille d'une mince jeune fille dont le docteur me confirma que c'était bien Lady Parthenope. Il y avait au bord de notre terrasse une longue-vue à demeure sous un petit kiosque et je la réglai pour considérer Lady Parthenope de plus près. La visière du chapeau fleuri faisait de l'ombre sur son visage.
« Elle a votre âge !»
soupira Babington.
« C'est le plus beau parti des îles. Un feu, une vivacité, un esprit, une culture, une souplesse. Un caractère un peu brusque et altier, c'est vrai, peut-être. Fruit d'une éducation privilégiée, mais la dot et les espérances sont magnifiques. » Cette reine sabre de Macpherson n'est pas en position de viser si haut.
C'était bien mon avis. Il y avait suffisamment de filles à bord des vaisseaux du roi pour combler un Macpherson. Le docteur ajouta, manifestement attendri sur un ton de confidence,
« J'ai l'insigne honneur d'être le parrain de Parthenope, que j'ai tenue toute petite sur mes genoux à l'âge où elle jouait encore innocemment avec ma queue. »
J'ai cru discerner, dans cette lourde plaisanterie, un reproche de la vision pathologique qui m'avait assailli naguère sur mon olivier et qui aurait pu assurément être de meilleur goût. Confus, je détournai la longue vue de la romantique apparition pour la braquer sur le capitaine Macpherson. Agacé sans doute par une fausse manœuvre, ce garde chiourme en vacances avait ôté son chapeau galonné et son habit bleu à épaules dorées, cet habit qui venait de me faire frémir durant d'interminables semaines, et il martyrisait une voile en culotte et bas blanc, assisté de quelques matelots. Mes mains se crispèrent tout d'un coup sur l'instrument, et bientôt, ne pouvant plus souffrir ce que j'y distinguais, je demandai à Babington d'observer à ma place et le suppliai de me dire en toute franchise s'il ne voyait rien d'extraordinaire. Ma voix blanche avait inquiété le docteur qui scruta la scène avec attention, mais évidemment sans constater quoi que ce fût d'anormal. Mon excitation fit place sur le champ à une grande lassitude. Je rentrai dans la chambre et me laissai choir de tout mon long sur le lit. Après qu'il eut refermé la porte, Babington m'interrogea sur mes symptômes avec une amicale sympathie et je lui décrivis ma nouvelle hallucination aussi précisément que je pouvais. Avec une incroyable netteté, je viens de voir au capitaine une queue toute blanche, longue d'un bon pied qui prolongeait le postérieur de sa culotte d'uniforme, un gros pompon doré au bout. Et les matelots en pantalon avaient aussi des queues, mais plus modestes, sans la moindre fioriture. Mon état s'aggrave. Je distingue des queues partout à présent. Or, il s'agit obligatoirement d'une hallucination. Si les officiers anglais de Corfou se promenaient avec des queues à pompons, cela se saurait. Les gazettes en auraient parlé. Avez-vous jamais ouï dire, docteur, d'une hallucination si sélective? Que, mis à part, tout paraissait normal dans ce tableau et jusqu'à la façon dégagée dont ces queues étaient portées. Babington marcha de long en large dans la pièce un moment, rectifiant sans y penser la position d'une chaise ou d'un vase, car c'était un homme ordonné et même méticuleux. Enfin, au sortir de cette méditation brève mais profonde, il retroussa machinalement son habit pour ne pas le froisser et vint s'asseoir près de moi au bord du lit. Me fixant alors dans les yeux, il me dit sur le ton d'une paternelle sollicitude.
« Je vous avouerai, mon cher garçon, que votre cas est déconcertant. Que vous aperceviez des queues humaines à l'occasion est une chose dont nous traiterons plus tard. Mais je suis frappé, et tout le monde le serait à ma place, du sort que vous faites à ces queues, de l'effet choquant qu'elles vous causent, des vives émotions, du bouleversement qu'elles vous infligent. Pour emprunter une image aux lois qui régissent la lumière, je dirais que vous êtes bizarrement polarisé sur ces queues. Une première explication vient à l'esprit. Après une existence confortable, studieuse, chaste et digne, vous avez brutalement été l'objet d'un rapt où une femme de mauvaise vie a joué son rôle. Puis, vous vous êtes trouvé plongé sans transition dans l'obscène promiscuité de l'esclavage marin, dans un milieu étouffant où vous offusquez l'insolence des sodomites. Ces queues humaines qui vous pourchassent à présent ne seraient-elles point pour votre imagination échauffée mais demeurée au fond très puritaine, comme les substituts de ces sexes agressifs dont vous aviez à vous défendre sous la férule de votre Codrington. Infiniment troublé par la suggestion, je ne sus que répondre. Prenant acte de mon trouble, le docteur poursuivit mezza voce. Il n'y aurait rien de surprenant à ce que les tourments endurés vous eussent très provisoirement dérangé l'esprit. Quelle tête eût résisté pour finir à votre chute d'Époulène dans l'eau du golfe, à votre chute d'un olivier brûlé de soleil au milieu d'une meute de molos, à ce long délire même qui vient de sanctionner près de 2 mois de dérèglement? Par bonheur, le calme de cet asile ne saurait manquer de vous rétablir bientôt. Si vous êtes sage, j'en ferai mon affaire. »
Gentiment, avec un bon sourire, Babington me tapota la cuisse et mon regard, qui avait vaguement suivi sa main potelée, tomba en arrêt sur une queue habillée de noir qui reposait tranquillement sur le lit entre sa cuisse et la mienne. Je fermai les yeux en retenant un gémissement, les rouvris avec appréhension. C'était bien la queue du docteur et elle ne me semblait pas vouloir s'en aller. Tandis que Babington me tenait des propos rassurants et optimistes, je fis un immense effort sur moi-même pour rapprocher mes doigts de cette queue mythologique dont j'arrivais enfin à toucher le dernier nœud. À moins d'une coïncidence, digne de l'harmonie préétablie de Leibniz, entre une hallucination visuelle et une hallucination tactile, c'était bien là une queue de docteur. Au prix d'un ultime effort, je la pinçai très légèrement pour en vérifier l'élasticité qui était incontestable et je me manquais d'évanouir. À cet instant, Babington, qui venait de surprendre mon manège, me donna sur les doigts une tape violente et se leva d'un bond. Outré, ulcéré, serrant le pan de son habit contre sa queue, il m'apostropha en ces termes.
« Mais par Jupiter, c'est une véritable obsession chez vous. Qu'est-ce que c'est que ces manières de me tripoter sournoisement la queue alors que je m'efforçais de vous réconforter ? Vous finissez par me faire croire que vous avez pris de mauvaises mœurs à bord de cette couronne, si ce n'était déjà fait auparavant.
Je rougis jusqu'aux oreilles et balbutiai des excuses indistinctes. Choqué comme je l'étais, avec quel mot aurais-je pu protester de mon innocence et dissiper l'affreux malentendu? Après cette explosion, bien digne du colérique caractère irlandais, Babington se radoucit.
« Allons, je suis docteur avant tout, et je veux oublier votre inconséquence, qui est bien d'ailleurs la plus évidente manifestation de votre maladie. »
Mais ce qu'il ajouta du pas de la porte me jeta dans un abîme.
« Je ne saurais point vous guérir promptement si vous ne m'aidez point, et je vous demande de faire un grand effort de mémoire. Où, quand, comment, pourquoi avez-vous perdu votre queue ? Car c'est bien là que le bât blesse. C'est bien parce que vous l'avez perdue, cette queue, parce que vous avez été ainsi diminué, que votre esprit, affaibli par l'adversité, s'est réfugié dans un univers imaginaire où tout le monde serait mutilé comme vous. L'atmosphère méphitique de la couronne a certes dû jouer son rôle dans vos divagations, mais la raison profonde de votre trouble mental, c'est de toute évidence, comme il advient trop souvent, votre infirmité physique. Regardez donc, si je puis dire, votre queue en face, que diable! Dès que vous l'aurez retrouvée, l'univers normal se remettra d'aplomb dans votre cervelle. En attendant, je vous autorise à vous promener avec les vêtements que la comète vous a rapportés de Corfou et qu'on va vous monter tantôt. Prendre un peu d'air vous distraira et vous fera du bien. Toute la maisonnée, compatissante à votre indisposition, ne songe qu'à vous rendre service. Pendant des heures, mes idées s'entrechoquèrent sans que je pusse parvenir à une construction cohérente, puisque deux cohérences étaient en opposition. Celle du docteur Babington, qui semblait raisonner fort bien avec beaucoup de finesse et de pénétration même, et la mienne, tributaire d'une foule de souvenirs, dont la plupart étaient en contradiction avec les derniers, lesquels étaient pourtant de beaucoup les plus frais et les plus impressionnants. Et la confusion mentale que j'éprouvais était aggravé par les pénibles soupçons de Babington à l'encontre de mes mœurs. Quand la sensibilité est atteinte, la réflexion papillonne autour de faux-semblants. Vers midi, ce fut une domestique qui me monta mon plateau avec du papier à lettres que j'avais demandé la veille à Babington pour donner de mes nouvelles en Angleterre. Clio était une fille délurée d'Ithac, fraîche et rieuse dont les nombreux jupons froufroutaient. Elle comprenait l'anglais et parlait passablement le vénitien, qui est dans les îles la langue la plus répandue après le grec. Mes connaissances théoriques de l'italien permettaient une conversation élémentaire. Après quelques lieux communs sur le temps qui se gâtait, sur les pluies qui menaçaient, je déclarai négligemment que les queues ioniennes m'avaient paru plus maigres et plus courtes que les queues de Londres, avec geste à l'appui pour mieux me faire entendre. Mon cœur battait dans l'attente d'une réaction convenable, mais la fille me répondit aussitôt
« C'est parce que les Grecs ne mangent pas à leur faim. Si nous étions bien nourris, vous verriez les queues que nous aurions. »
Et elle éclata d'un rire argentin comme si la déclaration était plaisante. Mon rêve éveillé perdurait. Alors que cette gentille enfant tapotait mes oreillers, j'imaginais un deuxième sondage plus en rapport avec les préoccupations de mon médecin traitant, et je murmurai « C'est bien aimable à vous, mademoiselle, de vous occuper ainsi d'un pauvre garçon qui a perdu sa queue et qui se sent tout différent des autres depuis cet accident. » Ce disant, j'avais fixé les grands yeux noirs de Clio, et j'avais même osé lui prendre la main pour m'assurer que toute cette chair n'était pas un songe. Comme Babington, la fille se méprit, me donna une tape sur les doigts et pour toute réponse me demanda où j'avais perdu ma queue. La question me laissa stupide et je vis bien qu'une gêne dont la nature m'échappait s'était installée entre nous. Avant de me retirer, Clio me dit avec une certaine fierté
« Il y a des hommes qui perdent leur queue honnêtement. Par exemple, mon grand-père, victime d'un coup de fossile dans les plaies de céphalonie. »
Il y avait donc des façons honnêtes de perdre sa queue, et d'autres qu'il y était moins. Mon silence risquait d'encourager je ne sais quel soupçon infamant. J'étais dans une position démentielle. Je déjeunais complètement désorienté, sans trop savoir ce que je mangeais. En plus de tous mes soucis, j'avais celui de rassurer les miens sur mon sort,
et pour la première fois que j'en avais l'occasion depuis mon départ, la moindre phrase m'était un problème. Depuis le matin, le décor de toute mon existence avait basculé comme par magie, non sans relation avec le sentiment que je pouvais avoir de ma vertu et de ce qu'on en pensait. Je commençais à craindre de devenir fou pour de bon. J'étais à sec devant mon écritoire, quand survint, les bras chargés d'effets et de linge d'hiver, un dénommé Paripopoulos, désireux de prendre mes mesures pour effectuer quelques retouches. Cet individu, qui avait une tête de garçon coiffeur obséquieux et rusé, massacrait l'anglais avec une volubilité remarquable. Je fus saisi sur le champ par la longueur des queues qui agrémentaient les caleçons, les culottes, les pantalons ajustés qui étaient de mode à l'époque, et le tailleur m'expliqua qu'on raccourcissait naturellement ces appendices d'étoffe aux dimensions des différentes anatomies caudales. Arguant de mon infirmité, je demandai à Paripopoulos de me supprimer ces fourreaux, dont la vue m'agaçait prodigieusement, mais il me dit d'un air scandalisé
« Monsieur n'y pense pas, coupe-t-on à l'épaule les manches d'un manchot ?»
Comme j'insistais, il me dit encore que j'aurais mauvais genre sans queue, et je finis par saisir qu'il entendait par là une allure efféminée. Très surpris et excessivement ennuyé par cette révélation, je me suis résigné à suivre l'usage. Paripopoulos voulait me tailler une queue longue, aux dimensions de la sienne, qu'il me dit modestement admirer en relevant le pan de sa redingote. J'en voulais néanmoins une courte. Après une discussion d'un insondable ridicule, nous avons transigé sur une queue moyenne. L'homme me quitta en me promettant de me rapporter un premier assortiment le soir même, et je le remerciai de cette diligence. J'avais hâte de me promener comme Babington m'y avait engagé. Il me semblait, et je voulais me réconforter à cette perspective, que l'enchantement dont j'étais victime ne pourrait que se dissiper au fur et à mesure que je porterais mes pas plus loin. Rendu à la solitude, je rongeais mon frein. Peu à peu, le sentiment s'insinuait en moi et m'oppressait qu'on se moquait de ma jeunesse et de mon inexpérience, que j'étais l'objet d'une monstrueuse plaisanterie, si énorme qu'elle ne pouvait durer longtemps, et qu'un minimum d'investigation allait faire voler en morceaux tout ce théâtre d'ombre. Vers le milieu de l'après-midi, je jetai sur mes épaules la cape que Babington m'avait laissée et sortis de nouveau sur la terrasse. Le ciel s'était couvert et une forte brise du sud-ouest poussait les masses nuageuses vers la Grèce. Tout en bas, dans une lumière laiteuse et diffuse, des matelots s'affairaient à renforcer les amarres de la comète et comme leur queue n'était pas visible à l'œil nu, le spectacle était d'une banalité rassurante. De ce côté, les jardins étaient déserts. Par un étroit escalier qui s'offrait, je gagnais une terrasse supérieure d'où la vue s'étendait de l'autre côté par-delà l'étendue verdoyante de Kalinaos jusqu'au rivage de l'Arcanie, en grande partie noyé de brume. Les jardins à l'italienne et le grand parc à l'anglaise qui descendait en pente douce du château vers l'intérieur des terres ne donnaient pas signe de vie, mais un bruit attira mon attention en provenance de la cour centrale du bâtiment. Me penchant par-dessus la balustrade, je vis un velum bleu et blanc à moitié tiré sur un péristyle. Une pièce d'eau, alimentée par des dauphins de bronze, où nageaient de gros cyprins dorés parmi des plantes aquatiques d'ornement. Des orangers en caisse et des vasques débordant de fleurs sur un sol de mosaïque, quelques statues grecques, et au sein de cette harmonie, un vieil homme perclus qui mettait à l'abri, un train de sénateur, du mobilier d'osier en prévision de l'ondée. Le va-et-vient du vieux avec ses caisses le faisait passer derrière une aphrodite dont la queue avait été cassée à la racine alors que la queue du tâcheron était malade. Le fourreau caudal du grossier pantalon de travail avait été coupé à quelques doigts du derrière pour laisser passage à un organe émailloté de pansements que tachait du sang des sanies. La vue de cette queue misérable, queue de prolétaire à bout de course, queue émouvante, dont il eût été absurde de prétendre qu'elle avait été préparée pour moi, cette vue avait quelque chose de profondément décourageant. Ou bien j'étais en proie à un mauvais génie, si efficace qu'il était vain de vouloir lui échapper, ou bien j'avais perdu ma queue ici ou là, et le retour de mes souvenirs me ferait rentrer, comme l'avait prévu le bon docteur Babington, dans un monde ordonné et sans fissures. ou bien j'étais fou allié, et rien ne signifiait plus rien. Il y avait toutefois un ordre et une logique dans cette folie qui me détournait par bonheur d'y croire, et je n'étais pas encore d'humeur à courir après ma queue, comme le petit épagnol que j'avais laissé à Shrewsbury. Je voulais malgré tout donner ma préférence à la première hypothèse, celle d'un décor qui devait tôt ou tard s'effondrer d'une chiquenaude. Il n'est de mauvais génie que dans les contes pour enfants, et j'avais tout de même passé l'âge. En somme, la meilleure ligne de conduite était de patienter, de faire semblant de jouer le jeu, d'ouvrir l'œil, et surtout de reprendre des forces physiques et morales pour revoir l'Angleterre le plus tôt possible. Je regagnai ma chambre alors qu'il commençait de pleuvoir, assez satisfait de mes dernières réflexions, et lorsque Clio arriva avec mon dîner, je ne résistai pas à l'envie de me moquer d'elle. L'assurance, le naturel, la santé de cette fille qui devait cacher une queue sous ses jupes, avait un caractère provoquant. Ces œufs miroirs font un excellent hors-d'œuvre, dis-je, mais j'y verrai volontiers, comme cela se fait en Angleterre, quelques queues frites d'enfants pauvres avec le bacon.
Monsieur présente.
Je vous jure bien que c'est la grande mode là-bas. La jeune princesse Victoria, qui va sur ses 9 ans, mange sa queue de nourrisson chaque matin. Avez-vous songé, Clio, que la queue est le seul organe qu'on puisse retirer à l'homme sans amoindrir sa capacité de travail? Ainsi, pour les pères affamés qui s'agitent dans les mines ou dans les fabriques, les queues enfantines sont-elles un providentiel garde-manger? Quand ils n'y tiennent plus, ils en coupent un bout pour se restaurer, et les plus commerçants les vendent tout entières sur le marché avec le produit de leur basse-cour. La perplexité de Clio était à peindre. Mais elle se sortit d'embarras en m'embarrassant.
« Voudriez-vous dire, monsieur, que votre papa aurait mangé ou vendu votre petite queue ?»
Agacé, je la congédiai. Sa question m'avait douloureusement rappelé le problème que je m'efforçais de négliger, faute de pouvoir l'oublier. Il faisait noir, et la pluie tombait à seaux quand Parépopoulos m'apporta de quoi me vêtir. Je choisis un habit bronze à boutons unis, un gilet de soie fauve, un pantalon à sous-pieds et une cravate noire, des bas blancs et des escarpins. Jusqu'alors, je n'avais guère accordé d'importance à ma tenue, et j'étais tout d'un coup devenu fashionable. Un vrai petit Brummel avant son déguerpissement pour dette. Il ne me manquait plus qu'un jonc à pomodore et une coiffure à lentignus. Je réservais pour le lendemain matin une tenue un peu plus négligée. Redingote en crainte de soie bleu foncé, gilet de piqué crème, culotte de peau et courte botte à revers. Du moins, la queue de cette culotte était-elle vierge de tout nœud de velours noir? C'est justement en 1827 qu'Honoré Balzac, dit de Balzac, écrivit l'art de mettre sa cravate enseignée en 16 leçons, et l'on aurait cru que Parépopoulos en avait déjà fait son livre de chevet. Il passa bien plus de 10 minutes à faire son nœud, à le défaire, à le refaire, à le papouiller, à le tripatouiller, tandis que me tracassait surtout la queue molle et triste d'infirme qui me battait lamentablement les fesses en attendant d'être voilée par l'habit. Parépopoulos en terminait enfin avec mon nœud quand j'estimais opportun de lui poser une question délicate.
« Je devine en vous, mon ami, un homme d'expérience et de bons conseils, aussi serviable que discret, et je voudrais vous faire part de mon ennui. »
La grave insolation dont je relève et peine à momentanément brouiller beaucoup de mes souvenirs, et je ne sais plus très bien ce que j'ai pu faire de ma maudite queue. Parole d'honneur, la chose m'échappe. Je dois pourtant donner une explication le plus tôt possible. La médisance court si vite. Bref, à ma place, que raconteriez-vous de pertinent et de vraisemblable? Devant la confiance que je lui manifestais, le tailleur se trémoussa d'aise et me répondit avec un air entendu.
Monsieur connaît les préjugés et a 1000 fois raison de vouloir mettre l'affaire au net sans tarder. On n'a presque jamais vu de nouveau-né sans queue, et monsieur ne saurait prétendre être infirme de naissance, mais en dehors de cela, le champ est vaste. Puis-je me permettre de demander si la cicatrice paraît récente?
Il m'est difficile d'aller voir, mais je doute qu'elle soit bien perceptible.
Alors la perte remonte aux jeunes années. Nous devons exclure la glorieuse blessure de guerre et même le noble accident de chasse. Que monsieur soutienne donc qu'il se fait coincer la queue dans une portière de voiture à l'âge de 6 mois. Les souvenirs ne marquent pas si tôt, et ce ne sera que demi-mensonge.
Je remerciai chaleureusement Paripopoulos de son diagnostic, bien que cette façon de perdre sa queue n'eût rien d'emballant. Le tailleur expédié, il était 8 heures du soir à la pendule. Le moment était venu de partir à la découverte.